Mémoire d'un continent, Elikem Boukolo.
Thinking Africa, l'Afrique au chevet de ses propres malades. Thinking Africa est un concept en langue anglaise qui en français donnerait quelque chose comme penser l'Afrique, concept qui a été élaboré par de jeunes chercheurs qui ne sont pas seulement dans la recherche fondamentale, qui sont aussi engagés dans les processus de développement et de construction dans la durée la plus longue du continent africain, avec ses États, avec ses institutions panafricaines, régionales ou continentales. Il s'agit pour ces jeunes gens, dans ces travaux de recherche, de commencer à se démarquer un peu de la pensée des autres sur le continent africain. Ce n'est pas que la pensée des autres soit systématiquement mauvaise, mais comme disaient plusieurs aînés de notre continent, notamment quelqu'un comme Joseph Kizerbo, on ne peut pas s'habiller avec les costumes des autres, on ne peut pas dormir constamment sur la natte des autres. Nous recevons aujourd'hui un des animateurs de ce groupe, Saïd Abbas Ahmed, qui vient d'être proclamé docteur de l'Université Paris 1 Panthéon à la Sorbonne, avec une thèse de doctorat en sciences politiques, une thèse qui touche en fait aussi bien à l'histoire, à l'anthropologie politique, à l'analyse du présent et aux perspectives du futur, et qui porte donc sur la question de la démocratisation en temps de guerre. Comment faire dans un pays où se mêlent la guerre, la transition démocratique, l'absence de l'État, et il a procédé à une analyse critique de l'intervention des Nations Unies et de l'Union Européenne en République démocratique du Congo de 1996, début de ce qu'on appelait la guerre de libération menée par Laurent-Désiré Kabila, à 2006, année de la première élection pluraliste et démocratique depuis une trentaine d'années. Vous êtes professeur dans plusieurs institutions. Vous avez enseigné notamment à Strasbourg dans la très célèbre ENA, École Nationale d'Administration, mais vous avez enseigné aussi en Afrique et en particulier à l'Université Catholique de Bukavu en République démocratique du Congo, et vous avez participé, vous avez une activité très importante, participé au Tribunal Pénal International pour le Rwanda à Arusha, et vous êtes donc l'un des animateurs de ce groupe. Alors, je voulais commencer avec vous par cette question de la démarcation entre ce que pensent les Africains et ce que pensent les autres. Vous écrivez dans votre thèse que le Congo, mais d'autres pays aussi, hein, l'Afrique du Sud, les pays soudanais, que le Congo est devenu une corne d'abondance pour les écrivains journalistes qui fixent des modes, qui fixent des paradigmes, comme aujourd'hui, de ce qu'il faut dire sur un certain nombre de pays, et vous pensez qu'il faut se démarquer d'eux. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces écrivains journalistes pour voir comment leur pensée se perpétue jusqu'ici?
Merci beaucoup, vraiment, parce que je crois que c'est une question centrale. Vous avez commencé par mentionner Joseph Kizerbo. Dieu sait combien nous tous nous lui devons dans cette volonté de se tenir debout par soi-même. Et dans cette volonté, quand on l'écoute, quand on le lit, on voit bien qu'il reprend ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas bien dormir quand on dort sur la natte de l'autre. Donc, on voit bien que quand on commence dans le cas du Congo avec Conrad, le premier regard qu'il porte sur le Congo, c'est un regard extrêmement, j'ai envie de dire, et ce n'est pas un discours du tout militant, c'est la réalité. Il décrit un Congo mystérieux, un Congo sauvage, un Congo impénétrable. Et cet imaginaire a marqué beaucoup de grands écrivains qui ensuite, dans la lignée de Conrad, on peut parler de quelqu'un comme Naipaul, on peut parler à la courbe du fleuve, on peut parler aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup comme Liv Joris dans La danse du léopard, où elle décrit un Congo bordélique et joyeux. Donc, le Congo est un aimant pour beaucoup d'écrivains qui ont toujours décrit le Congo à leur façon. Et donc, bien sûr, il va de soi que Tintin a aussi fait beaucoup de mal dans cette idée de simplifier et de décrire un Africain niais et incapable de se penser lui-même et de se tenir debout. Et donc, le danger pour ce genre d'écriture, c'est que Au fond, les Africains finissent par se réapproprier ce discours et finissent par se percevoir comme l'autre les voit. Un peu comme dirait Frantz Fanon, l'ensauvagement mutuel. Quand l'autre prétend ramener la lumière, il ramène la violence. Et pour se libérer, nous reprenons sa propre violence. Et donc, on part dans une logique qui ne se finit pas. Et nous, à Thinking Africa, on prend très au sérieux cette idée. Et excusez-moi, je voudrais juste terminer par un dernier écrivain quand même qui a fait beaucoup de mal à l'Afrique, le journaliste Stephen Smith dans Négrologie, pourquoi l'Afrique se meurt. Très sincèrement, si Stephen Smith avait écrit son livre sur l'Amérique latine ou sur l'Asie, je pense qu'il n'aurait pas pu jamais travailler ailleurs. Et pourtant, il enseigne aujourd'hui à l'université et il continue à publier. Donc, il faut prendre au sérieux ces gens qui se donnent le droit de nous nommer avec leur vocabulaire. Je crois que c'est Édouard Glissant qui dit « se nommer soi-même, c'est exister ». Et nous, nous prenons très au sérieux l'idée de penser notre continent, l'idée de penser nos propres difficultés à partir de Kinshasa, à partir de Luanda, à partir de Abidjan, Dakar. Et qu'avons-nous à dire par rapport à nous-mêmes? Vous avez raison, ce réseau est un formidable réseau créé par beaucoup de jeunes. Et je voudrais insister sur le fait que personne n'est payé pour l'instant et nous avons réussi en une année à faire exister cette plateforme incroyable avec des vidéos, avec des entretiens, avec des articles qui posent des questions sur des choses que, on va dire, la communauté scientifique ne s'intéresse pas nécessairement. La question de Cabinda, la question de Sud-Soudan, les frontières, les questions de la Somalie. Ce sont des angles morts pour les grands médias. Et nous, nous voulons penser ces questions de façon sérieuse. Et c'est pas toujours facile parce que nos propres grands frères ou nos propres pères refusent la critique. Et alors, quand c'est trop difficile, l'argument massue, c'est de dire « Ah, vous êtes des Blancs » ou « Vous êtes occidentalisés ». Quand on veut dire la vérité, quand on veut décrire la douleur de ce que c'est que vivre dans un hôpital à Zanzibar ou ailleurs, c'est pas facile. Donc nous prenons au sérieux l'idée que nous devons parler de nous-mêmes avec toute la rigueur scientifique que demande la recherche universitaire.
Joseph Conrad, dont vous parliez, je rappelle que ce texte fameux, qui est l'une de ses nouvelles, c'est Au cœur des ténèbres, qui date de 1899 et qui continue d'apparaître comme un texte d'exception. C'est un texte qui est bien écrit, mais comme un texte de référence, là, c'est un autre problème malgré toute une série de critiques que des écrivains du Sud ont formulées. Nous sommes avec vous, Saïd Abbas, pour parler de ce réseau Thinking Africa qui s'occupe de toute une série de thématiques, paix et réconciliation, médias et conflits, sécurité, gouvernance, leadership, développement et reconstruction, et finalement union africaine. Vous venez d'évoquer une série de choses en cours, notamment le Cabinda, qui est un lieu qui devient un lieu de conflit entre la République du Congo et l'Angola, le Sud-Soudan, dont beaucoup ont apprécié l'accès en définitive à l'indépendance, qui apparaît de nouveau comme une terre de conflit. On va voir avec vous deux de ces crises nouvelles qui ont évidemment des racines anciennes et qui posent la question de l'intervention qui est un peu le thème précis de vos recherches. Prenons avec vous la question du Mali. Le Mali qui donc s'est trouvé en guerre, qui a connu et qui connaît une intervention et qui est aussi en processus de transition, qui donc présente un peu un profil comparable à celui que vous avez étudié à propos du Congo, sauf que dans le cas du Mali, c'est sur une durée relativement plus courte. Alors, est-ce que, comme certains ont dit, ce sont des atavismes de vieille date entre musulmans et non-musulmans ou entre musulmans entre eux ou entre des tribus contre l'État, notamment les Touaregs? Quel genre d'analyse vous faites par rapport à des situations de ce genre qui sont d'une très grande complexité?
Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser aux yeux des spécialistes du Mali. Donc, il est vrai, j'ai étudié l'intervention internationale. Je connais la question du Mali, mais je me sens plus à l'aise dans les Grands Lacs. Mais je vais répondre. Il me semble que on peut partir. Donc, la crise malienne, c'est une longue crise. Vous vous rappelez les efforts qui ont été faits avec la flamme de la paix dans les années 90. Les médiations de Edgar Pisani entre les Touaregs et l'État central. Donc, il y a historiquement une difficulté à faire communauté entre les gens qui sont au nord du Mali et les gens qui sont au sud.
Mais en même temps, le processus démocratique semblait bien se passer.
Exactement. Mais vous vous rappelez aussi que donc après ATT, avant ATT, il y a eu Alpha Marconaré, ensuite ATT, et ce processus a été interrompu parce que nous savons tous que l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye a ouvert les enfers. Il y avait là beaucoup de gens qui étaient des mercenaires avec une concentration de d'armes incroyable. Et du jour au lendemain, on ouvre les portes et tout le monde pouvait se servir. Et donc, les Touaregs, certains qui étaient sous les ordres de Kadhafi, lorsque le parrain a disparu, ils se sont sentis pousser des ailes avec cette capacité de feu qui était de loin supérieure à l'armée malienne. Et voilà comment on interrompt le processus de démocratisation, qui était, il faut quand même le dire, en interne, gangréné par la corruption. On est tous conscients aujourd'hui que le président Toumani Touré a été un excellent général, un bon démocrate quand il a arrêté dans les années 90 le dictateur qui était là et qu'il a fait les élections qu'il a données à Alpha Marconaré. Mais en tant que président, on doit dire, il faut être sincère, il a été médiocre. Il a laissé les gens faire tout ce qu'ils voulaient. Sur la question de Touareg, il avait peur des Algériens, donc il n'a jamais pris les mesures nécessaires. Tout le monde sait aujourd'hui que l'Algérie l'a empêché de vraiment combattre sérieusement ces gens. Et donc, sans parler quand même de la drogue qui a quand même gangréné toute la façade de Guinée-Bissau jusqu'en Mauritanie, on a là une poudrière et des difficultés à stabiliser des États où l'armée n'est pas correctement payée.
Alors on retrouve là un des problèmes que vous étudiez, justement la question de la consolidation de l'État. Pas seulement l'État gendarme tel qu'on le connaît, mais il faut qu'il soit l'État gendarme, mais qu'il faut soit aussi l'État gestionnaire capable de gérer un espace et de faire que les gens vivent exactement en société. Mais dans ces conditions, sans entrer dans les détails de la guerre, une des choses qui a surpris les observateurs, c'est que l'Union africaine, qui possède en son sein des équipes chargées des problèmes de sécurité, ne se soit pas montrée capable d'organiser rapidement une riposte internationale africaine dans le cas de ce pays sur son continent. En sachant que d'ailleurs, le cas du Mali pouvait facilement déborder sur toute la bande soudano-sahélienne.
C'est pire que ça, parce qu'en fait, si on compare le Mali et la Centrafrique, on retrouve les mêmes problématiques. On perd beaucoup de temps dans des querelles entre la CEDEAO et l'Union africaine. Des querelles entre l'Union africaine et les Nations unies. Des querelles entre l'Union africaine et l'Union européenne. Même chose en Centrafrique. Il y a des querelles entre la FOMAC, la MISMA, l'Union africaine. Et ça devient des querelles de petites personnes, alors que les enjeux vont au-delà de ça. Il y a beaucoup, des milliers de gens qui sont en train de mourir. Et un chef de l'Union africaine n'est pas d'accord avec le chef des Nations unies, n'est pas d'accord avec le chef de la CEDEAO, et ainsi de suite. Donc, on est encore loin de... on a mis en place la CARIC, donc la capacité africaine d'intervention rapide. Mais si demain, un État devait tomber, on rencontrera le même problème. Il faudra emprunter des avions transporteurs de l'armée américaine ou de l'armée française ou de l'armée sud-africaine. Ensuite, il faudra trouver des soldats et on n'a pas encore la capacité de réagir. Et je vous dirais, c'est pas un secret, tout le monde sait que lorsque le Mali est tombé, des gens dans le département paix et sécurité à l'Union africaine ont fait une note. Cette note est envoyée au directeur qui ensuite doit la recommander au commissaire. C'est triste à dire, et je voudrais m'excuser parce qu'ils sont très sensibles à la critique, mais ils ont mis 6 semaines à répondre à la note. Et pendant ces 6 semaines, l'Europe a proposé sa stratégie, les États-Unis ont proposé une stratégie, la France a proposé une stratégie. Il y a des jeunes brillants à l'Union africaine qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Ça a bloqué à un certain niveau parce que quelqu'un a voulu consulter tout le monde pour se mettre d'accord pendant que les autres étaient en train de mourir. Donc, nos capacités africaines, je pense que il faut prendre au sérieux. Il faut que l'Union africaine s'implique. Il faut arrêter de nous donner l'excuse de l'argent. Parce que l'argent sur le continent, il y en a. Pourquoi on taxe pas les compagnies multinationales qui pompent le pétrole, les compagnies minières? Imposons un impôt de la paix. demandant à ces gens de nous payer un impôt de la paix pour qu'on puisse nous équiper en avions de transport de troupes, en entraînement et formation, pour qu'on impose la paix sur notre continent. On ne peut pas accepter que les gens viennent prendre tout ce qu'on a et ne pas regarder la violence qu'il y a. Ils sécurisent des zones pour Areva, pour Total, pour les autres, et le conflit continue. Donc, l'excuse des ressources humaines et des ressources financières, ça, ce n'est plus acceptable en 2014.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan.
Saïd Abbas Ahmed, vous expliquez que vous connaissez bien la région des Grands Lacs, où vous avez vécu, vous avez travaillé, mené des enquêtes. Si on regarde la géopolitique aujourd'hui ou la géographie des conflits, on a l'impression que cette région, donc Burundi, Rwanda, Ouganda, Est du Congo, est en train de se greffer sur une autre partie du continent, le sud du Soudan et maintenant la Centrafrique. Ça fait donc une sorte d'arc, de cercle avec la République démocratique du Congo évidemment, qui semble-t-il risque de à la fois complexifier davantage l'analyse des questions, créer un espace de liberté pour les bandes, les toutes sortes de criminels, et donc rendre encore plus difficiles les opérations d'intervention, disons, des communautés économiques régionales africaines.
Vous avez tout à fait raison. Si on regarde, il faut toujours revenir à l'histoire. Donc, la violence de 59 avec ce qui s'est passé au Rwanda. Revenons après la guerre froide. À la guerre froide, on avait une espèce de diagonale du chaos qui allait d'Asmara à Luanda. Cette diagonale du chaos s'est stabilisée en Afrique australe et s'est stabilisée un peu sur la corne, avec une exception qui est un échec collectif, la Somalie. Maintenant, avec le Soudan qui avait entamé cette partition à l'amiable, et on peut en discuter, mais ça, c'est pas la question. On avait une impression de stabilité. Mais l'Ouganda ne s'est jamais stabilisé. L'Ouganda a toujours gardé des zones de non-droit au nord, avec donc on a une élite des anciens guerrieros, des anciens réfugiés qui sont au pouvoir, et ces anciens réfugiés au pouvoir décident de mourir avec tous les pays autour. Museveni est âgé et malade, Kagame vient de la rébellion, a été réfugié, Kabila est un ancien aussi réfugié. Donc cette élite qui vient de différents mouvements qui ne parvient pas à stabiliser, la Centrafrique qui est connecté au Tchad, constitue aussi une menace. Donc, le Congo, ce pays continent, qui est le plus grand pays francophone aujourd'hui, est très fragile. On a là, vous avez tout à fait raison, une dynamique de tectonique des plaques qui est difficile à stabiliser. Et la Centrafrique aujourd'hui nous préoccupe, et nous a préoccupés, et va nous préoccuper. Le Tchad nous préoccupe, mais qu'adviendra du Tchad si Déby devait mourir? Il se pense invincible, il se pense éternel, mais c'est le Tchad est aussi très fragile. Donc, il me semble que l'Union africaine et les organisations régionales, que ce soit la CEMAC, que ce soit la CENSAD ou l'IGAD, doivent réellement s'exprimer et nous dire clairement quelle est la vision pour sortir de cet arc d'instabilité.
Thinking Africa, penser l'Afrique, on vient de le voir, eh bien, il y a beaucoup de choses à penser et surtout aussi, bien sûr, le nécessaire passage de la pensée à l'action. Merci à vous, Saïd Abbas Ahmed, pour cette participation à Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Si vous souhaitez réécouter Mémoire d'un continent, connectez-vous sur le site rfi.fr.